contexte tendu dominé par la guerre en Ukraine et l'inflation qui menace le pouvoir d'achat des Français. Alors Philippe Gosselin est notre invité, il connaît bien l'hémicycle puisqu'il vient d'être réélu député LR de la Manche, de la première circonscription à Saint-Lô. Il nous accompagne ce matin dans l'actualité pour faire le point sur les grands sujets, les grands débats parlementaires. Bonjour Philippe Gosselin.
Bonjour.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tourné vraiment la page de la mandature précédente qui ne ressemblait pas du tout à celle que nous commençons à connaître aujourd'hui?
Effectivement, la mandature 2017 était déjà une mandature très particulière, qui n'était pas une opposition classique droite-gauche, une majorité qui se succédait à elle-même, etc. C'était le coup un peu exceptionnel d'Emmanuel Macron et de la majorité. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Voilà, il y a eu 2017-2022 et il y a quelque chose de nouveau,
c'est
2022.
Mieux.
Bah écoutez, pour le moment, on ne sait pas trop. En réalité, on est dans une phase de tâtonnement, d'expérimentation, si je puis dire. La majorité n'a pas totalement compris qu'elle était relative désormais, donc qu'il lui fallait travailler peut-être autrement ses textes, autrement avec les
Pourquoi
oppositions.
Pourquoi n'a-t-elle pas compris?
Parce que pendant 5 ans, il y a eu une majorité un peu godillot, un peu Playmobil, qui s'imaginait que tout était possible. Et il faut dire qu'avec la Covid notamment, mais pas que, un pouvoir assez jupitérien, assez vertical, le Parlement a été plutôt malmené. Là, ça serait plutôt la revanche, éventuellement, où le Parlement... Allez, on va faire titre de l'été, le Parlement, le retour. Mais on peut mettre un point d'exclamation. Moi, j'en suis encore au point d'interrogation. Ça va dépendre un peu des négociations, de la façon dont les textes des uns et des autres vont être pris en compte, les amendements, les échanges, et si réellement la majorité, le gouvernement veut être constructif. C'est pas si simple, c'est un peu nouveau, et ça a été dit et redit depuis quelques semaines, on n'a pas nécessairement cette culture en France, parce que ce n'est pas celle de nos institutions, où on est depuis 58 globalement, sauf que quelques exceptions en cohabitation, on est dans le fait majoritaire, donc une majorité du président qui est là pour voter et appliquer le programme du président. Bah là, le programme du président, d'abord, il n'est pas si clair, et puis de toute façon, si le président a été réélu, la majorité aujourd'hui est plus faible, et l'ensemble des oppositions, quoi qu'il advienne de toute façon, et elles sont très diverses, j'en conviens, mais l'ensemble des oppositions est en réalité majoritaire par rapport à cette majorité supposée relative et applicable quand même.
Elles arrivent à s'entendre quand même, ces oppositions, Philippe Gosselin, quand on voit que le pass sanitaire, le gouvernement sur ce dossier du pass sanitaire a été mis en échec,
oui,
par la coalition LR, RN, LFI.
Oui. Ça peut arriver, effectivement, ça a été un coup de semonce et pas un coup de chaud, comme l'a dit le président de la République le 14 juillet. Non, non, c'était pas un coup de chaud. C'est pas non plus une coalition de la carpe et du lapin. Il se trouve qu'effectivement, il y a eu refus de ce pass sanitaire qui était mal présenté par le gouvernement, mal engagé, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il s'agit pas de réinstituer un pass sanitaire sur l'ensemble du territoire, ni même le pass vaccinal comme cela a été sous-entendu, mais un texte mal ficelé, des négociations qui ont été mal menées par le gouvernement et surtout un signal qui était attendu très clair, haut et clair, sur la réintégration des soignants, des professionnels type pompiers, gendarmes, etc., etc., qui depuis le 15 septembre sont en suspens. Alors qu'on a besoin d'eux. Et il ne s'agit pas de réintégrer tout le monde
quand ils n'ont pas déserté.
Demain matin. Quand ils n'ont pas déserté, demain matin à 7h, sans avoir évalué tout ça, on n'est pas dans cette exigence. Mais il faut mettre sur la table, et très très rapidement, ce besoin. On a 12 000 soignants. Il y a d'autres professionnels, mais 12 000 soignants qui manquent à l'appel. C'est pas rien. Et comme vous le soulignez, ils sont peut-être, et c'est vraisemblable d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux, partis ailleurs, et on les a perdus définitivement.
Vous parlez d'amnistie,
on en a besoin.
Philippe Gosselin.
Oui, moi j'ai évoqué le terme un peu d'amnistie. Alors c'est pas au sens strictement juridique, parce qu'une amnistie c'est dans le cadre d'une affaire pénale, etc. Donc on est sur autre chose. Mais il n'empêche que moi j'estime, et nous estimons aux Républicains, que les soignants comme des pompiers qui ont été exclus et d'autres ont d'une certaine façon déjà payé le choix qu'ils ont fait. Depuis des mois, ils sont sans salaire, sans traitement. Depuis des mois, ils sont dans une espèce de zone de non-droit. Et je crois qu'on ne peut pas maintenir celles et ceux qui ont fait un choix différent dans un contexte différent aujourd'hui, alors que la situation est elle aussi différente.
Les LR ont créé une structure de débat au sein de leur mouvement pour essayer de prendre des positions communes de faire advenir des positions communes. Ça veut dire que ça tiraille un peu en interne sur quantité de sujets, en particulier celui-là.
Il y a quelques nuances,
effectivement. Comment s'appelle cette structure que je n'ai pas
part, il y a quelques nuances d'une part, et en fait, ce que l'on essaie aujourd'hui, c'est d'avoir un travail beaucoup plus en amont et en commun avec le Sénat. Le Sénat est une des pièces importantes du dispositif aujourd'hui parlementaire, c'est évident, il l'était sous la mandature précédente, mais compte tenu de la majorité du Sénat, compte tenu aussi de notre poids, ce qui n'est pas négligeable, même s'il n'est pas aussi fort que ce qu'on a pu connaître à une certaine époque, dans les commissions mixtes paritaires, qui sont des commissions qui réunissent en cours d'examen d'un texte le Sénat et l'Assemblée, eh bien en réalité, nous sommes aujourd'hui en capacité, avec les sénateurs et les LR, d'infléchir la position du gouvernement et de la majorité, et éventuellement de faire échec en CMP à un texte que le gouvernement aurait voulu faire passer et qui ne serait pas conforme à ce que nous attendons. Alors, il ne s'agit pas de faire du blocage. Nous, les Républicains, nous n'avons pas été élus pour bloquer la France. Je laisse ça à la NUPES. Mais on peut, on doit faire valoir un certain nombre de nos arguments, de nos propositions, les mettre sur la table dans une approche qui doit être plus, aujourd'hui, de co-construction, ce qui est facile à dire derrière un micro et autour de cette table, mais beaucoup plus compliqué à mettre en application dans la chaleur, et pas simplement extérieure, mais la chaleur aussi des débats dans l'hémicycle, comme on l'a vu cette nuit ou hier, par exemple.
Sur la question du pass sanitaire, par exemple, Philippe Gosselin, à combien de députés estimez-vous parmi les LR ceux qui sont, par exemple, tout à fait opposés au point de vue qu'a exprimé l'Académie de médecine, qui a exprimé sa ferme opposition à une réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid? Est-ce qu'il y a parmi votre formation une opposition ferme à ce point de vue-là? Et est-ce qu'il y a aussi, évidemment, un avis très fort qui irait dans l'autre sens?
Il y a une opposition très ferme, et je crois pouvoir le dire, unanime, à cet avis de l'Académie de médecine. Et du reste, ce mercredi, le Sénat devrait envoyer des signaux très clairs dans des amendements sur le texte de veille sanitaire, sur cette réintégration des soignants. On ne peut pas s'abriter uniquement derrière cet avis, même si nous devons faire attention à ne pas non plus heurter les soignants qui se sont fait vacciner, qui ont joué le jeu, etc. C'est vrai qu'il y a un équilibre qui n'est pas si simple, mais encore une fois, les personnes qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner, même si ça peut paraître étonnant, etc., l'ont fait dans un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et je crois qu'il faut, à un moment, passer l'éponge. Ils ont déjà payé.
Quelle serait pour vous la bonne attitude sur cette question sanitaire? Quel serait le cap à tenir pour le gouvernement, si vous étiez en responsabilité?
Écoutez, le cap, c'est qu'il ne doit plus y avoir aujourd'hui de contraintes fortes sur la liberté d'aller et de venir, notamment. Ça veut dire que le pass sanitaire doit être une exception dans l'exception la plus totale. Ce que nous souhaitons, c'est que éventuellement il y ait quelques contrôles pour des étrangers qui arrivent en France de certains pays qui pourraient être identifiés. Donc ça, aujourd'hui, je ne vous en dresse pas la liste parce que ça dépendrait évidemment des taux d'incidence, de certains variants, etc. Il ne faut pas non plus ouvrir les portes, ça n'aurait pas de sens. Et même chose pour se rendre éventuellement dans les territoires d'outre-mer ou en Corse, en rappelant du reste que si aujourd'hui les parlementaires insoumis mettent en avant un refus de ce pass sanitaire dans les outre-mer notamment, en rappelant que les exécutifs de ces territoires d'outre-mer, ça vaut aussi d'ailleurs pour la Corse, et le président Simeoni l'a dit, avaient un souhait de protection. Vous voyez que tout ça, c'est parfois un peu ambigu. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il est hors de question. Mais le sujet n'est même pas sur la table, en réalité. Ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas question d'accepter le moindre texte qui permettrait, même à minima, de réinstaurer un pass sanitaire en France pour aller dans tel ou tel commerce, aller au cinéma, etc. C'est fini. Il faut que nous apprenions à vivre.
Mais il est toujours en vigueur dans les maisons de retraite.
Il l'est encore, et pour quelques semaines dans les maisons de retraite, mais au 31 juillet, tout cela doit s'arrêter. Je trouve que nos aînés ont été maltraités. On a encore aujourd'hui des maisons de retraite qui appliquent pratiquement les protocoles qui existaient au plus fort de la crise au mois de mars-avril 2020. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est totalement illégal, mais certains continuent à le faire. Donc, il faut effectivement que les autorités de tutelle s'emparent de cette question. C'est de moins en moins le cas, mais ça existe encore.
Philippe Gosselin, vous êtes député LR de la Manche. La Manche, on le sait, c'est un département rural, un maillage extrêmement serré. D'ailleurs, c'est le département où il y a le plus de routes départementales, je crois, en
7000 kilomètres, effectivement.
Voilà, 7000 kilomètres. C'est aussi, je crois, le département dont les ressources fiscales tiennent le plus de la présence d'institutions énergétiques comme Areva, EDF. On sait, je crois que c'est à peu près la moitié des ressources fiscales de la Manche qui dépendent.
Alors c'est moins, c'est que ça, beaucoup moins que ça désormais, mais il n'empêche qu'effectivement le nucléaire a une part importante dans nos ressources, mais non seulement dans nos ressources, mais aussi.
C'est la question du débat présidentiel.
La question piège, effectivement, je vois bien l'allusion. Bah, écoutez, je donne ma langue au chat sur le chiffre exact, parce qu'en réalité, la réponse est plus complexe qu'elle n'y paraît, et ce n'est pas pour me débiner.
Il faudrait savoir de quoi on parle.
Il faudrait savoir vraiment de quoi on parle, premier point, mais surtout savoir si on intègre le budget du département de la Manche en tant que collectivité locale, et là on a effectivement plusieurs dizaines de millions, ou si on intègre en plus ce qui est versé aux collectivités type ville ou agglo. L'agglo du Cotentin, par exemple, reçoit plusieurs millions au titre du nucléaire. C'est vrai aussi pour certaines communes. Et donc, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'empêche que le nucléaire, au-delà des ressources fiscales ou parafiscales ou de dotation, c'est aussi de la compétence, de l'excellence. Le département de la Manche est vraiment à la pointe de ce côté-là. C'est aussi des milliers d'emplois. Ce n'est pas rien. Mais c'est aussi, malheureusement, Et je le mets sur la table avant sans doute que vous le fassiez vous-même, l'EPR de Flamanville.
Bien sûr.
Et ses secousses Saga Africa. Voilà, c'est reparti pour un tour. C'est une difficulté.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est reparti pour un tour? On met de l'argent sur la table pour aller jusqu'au bout du processus.
Il faut aller au bout du processus. On ne peut pas s'arrêter au milieu du gué. Je rappelle qu'on a mis quand même plusieurs milliards. On est à plus de 10 milliards aujourd'hui sur un budget initial de 3,5. Alors je crois qu'il avait été totalement sous-estimé. Et d'autant plus sous-estimé qu'en réalité, je pense qu'on a perdu des compétences. Vous savez, quand on ne travaille plus certains secteurs où on était excellent, eh bien les cerveaux partent, les techniciens partent, ça peut être à la retraite ou ailleurs, et là où on avait cette voie d'excellence, et qui reste encore une voie d'excellence, on a perdu en compétences, et tout ça, il faut le rattraper.
Faut-il nationaliser EDF? Est-ce que vous auriez fait autre chose que ce que Bruno Le Maire va faire?
Alors, aujourd'hui, compte tenu de la situation, c'est vrai que la nationalisation apparaît comme sans doute un moindre mal, un pis-aller. Mais je pense que si nous avions été aux affaires, nous aurions évité de faire porter à EDF un certain nombre de charges de façon indue. Vous savez, le choix qui a été fait, celui du gouvernement, est de faire vendre par EDF l'électricité qu'elle produit à un coût intéressant qu'elle pourrait négocier en France ou sur les marchés internationaux, de le brader au profit d'entreprises privées, d'autres entreprises privées, qui, elles, engrangent des bénéfices très importants. Autrement dit, on met à poil, excusez-moi de le dire ainsi, mais on met à poil EDF, et après l'avoir mis à poil et lui avoir fait porter pas loin de 50 milliards de dettes, 8 milliards ces derniers mois avec le bouclier énergétique, on le met à poil et il faut le rhabiller. On le rhabille comment? En nationalisant. Nous aurions peut-être nationalisé compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité, on aurait évité de faire ce qui a été fait les mois précédents. Sans doute d'autres formules qu'il aurait fallu mettre sur la table et pour éviter que le prix de l'énergie s'envole, ça c'est évident. On aurait eu aussi à cœur de satisfaire nos concitoyens et d'être préoccupés par cette situation du pouvoir d'achat, mais avec une autre formule qui aujourd'hui, en réalité, nous met au pied du mur.
L'Union européenne n'a pas reconnu le nucléaire comme une énergie verte, une énergie décarbonée, mais c'est très intéressant de s'intéresser à la façon dont l'Union européenne identifie en fait qualifie en fait le secteur ?
Alors, en réalité,
c'est un échec pour vous ?
Dans un premier temps, l'Union européenne avait dit oui, avait dit non. Mais finalement, le nucléaire est quand même reconnu comme une énergie verte. Donc, un certain nombre d'investissements pourront rentrer dans le cadre européen. C'est une bonne nouvelle pour la France. Moi, je crois que l'énergie nucléaire qui est décarbonée va nous permettre d'assurer au moins en partie la transition énergétique. Mais pour autant, ne nous reposons pas sur ces lauriers. Il faut continuer à travailler sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets, comme l'hydrogène. C'est déjà bien parti. On a rattrapé notre retard. Mais les énergies renouvelables ne sont pas à évacuer d'un revers de main. Maintenant, ça pose aussi la question de l'origine, par exemple, des terres rares, comment on fait, et tous les débats qui se font, par exemple, en Bretagne, pas très loin de chez moi, la Normandie, pour savoir si on extrait ou pas ces terres rares. Vous voyez bien qu'il y a déjà des débats là-dessus, un refus. Donc, parfois, il y a des injonctions contradictoires qu'il va falloir aussi gérer.
Philippe Gosselin, il nous reste 5 minutes. Alors, j'ai beaucoup de questions. Il y a celle du pouvoir d'achat, bien sûr. Je voulais vous en poser une qui concerne peut-être davantage le tropisme de notre antenne sur les questions sociétales qui marqueront peut-être ce quinquennat. Je voulais savoir, compte tenu de vos positionnements antérieurs sur un certain nombre de sujets, est-ce que vous estimez, est-ce que vous avez déjà les prémices que ça va être un débat fort, une priorité de l'action parlementaire au cours des 5 années à venir?
Écoutez, une fois de plus, une fois encore, je crains que les questions dites de société, alors on les voit, c'est sur la constitutionnalisation de l'IVG, c'est sur la fin de vie, euthanasie, suicide assisté, etc. Je crains, très honnêtement, que ce soit encore une espèce de variable d'ajustement, que encore ce soit une façon pour le gouvernement de lancer des signaux dits de progressisme et de nous amener dans une roue un peu infernale. C'est la variable d'ajustement, et puis une large majorité de l'Assemblée actuelle sera capable sans doute de se mettre d'accord sur le suicide assisté, etc. Ce que je récuse personnellement, vous le savez, ça a toujours été un long combat. Mon long combat, il est pour le développement des soins palliatifs qui sont inégalement répartis sur le territoire, qu'on mette des moyens, et on sait que quand la souffrance...
Dans la Manche, il y en a ?
Dans la Manche, on n'en a pas suffisamment. On n'a que quelques lits de soins palliatifs. On est en manque alors qu'on a une population qui vieillit. Et d'ailleurs, la Normandie elle-même est sous-dotée par rapport à une sous-dotation nationale déjà. On se donne pas les moyens, et c'est pas simplement des moyens matériels, c'est aussi une approche psychologique, c'est aussi l'enseignement de médecine, etc., qui est à revoir sur ce point-là.
Combien de députés se battront sur ce terrain? Est-ce que vous pensez obtenir quelques succès en matière de coalition?
Écoutez, sur la GPA, par exemple, que je n'évoquais pas, il pourrait y avoir une alliance assez étonnante. Les insoumis sont fermement et très, très, vraiment totalement opposés à la GPA, à la gestation pour autrui.
Contre la marchandisation.
Parce que effectivement, marchandisation des corps. C'est un point intéressant et qu'il ne faut pas négliger. Ça peut paraître très étonnant, mais il y a parfois des coalitions possibles sur un tel sujet. Donc ça vaut pour la GPA. En revanche, cette coalition qui pourrait paraître hétéroclite, je ne la vois pas nécessairement sur la fin de vie. Et c'est évidemment ce qui m'inquiète, et qu'un tel sujet puisse être traité éventuellement un peu à la va-vite et soit encore une fois une variable d'ajustement pour faire bien dans le décor. Alors que c'est un sujet, évidemment, au-delà des positions plutôt d'opposition que je manifeste, c'est un sujet qui demande beaucoup d'empathie, d'humanité, et plus que des anathèmes qui méritent qu'on pose le sac et qu'on prenne du temps, beaucoup de temps, et qu'on se donne aussi des moyens.
Laurent Wauquiez a renoncé à la présidence LR, ça veut dire qu'il ira en 2027 à la candidature présidentielle?
Écoutez, vous lui poserez la question à lui directement, mais notre W français, ira, en tout cas, il a l'envie d'y aller en 2027. Maintenant, il n'est pas...
Mais c'est un signe, je renonce au parti pour y aller.
Il n'est pas tout seul. Mais je crois qu'aujourd'hui, la stratégie de beaucoup de candidats potentiels est de ne pas être à la fois candidat potentiel et président du parti.
Ça, c'est une rupture culturelle, un peu.
C'est une rupture culturelle. C'est vrai que la notion d'incarnation, de leadership, elle est souvent, on l'a vu avec Chirac et d'autres, aller souvent avec la présidence du parti. C'est du reste ce qui existe aussi dans d'autres démocraties européennes. C'est différent chez nous. Mais la messe n'est pas dite, si je puis dire. Le bureau politique hier a repoussé les opérations à la fin de l'année, et c'est très bien, ça laissera un petit peu de temps. Donc il y a des candidatures qui peuvent émerger, il y a déjà des noms qui circulent, donc le meilleur gagne.
Y aura-t-il le vôtre ?
Il n'y aura pas le mien, mais je ne reste pas inactif. Et quand on est né à la saison 4 de d'un mandat, forcément, on commence à avoir quelques envies, quelques ambitions. Mais au-delà de ça, plus sérieusement, on a surtout envie que ça marche et que l'opposition des LR ne disparaisse pas, et qu'elle soit constructive et qu'elle soit surtout une force de proposition pour nos concitoyens.